Quelqu'un a dû dire Saint-Paul, j'ai cette question, pourquoi ce que je fais, je le hais, et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas? La phrase exacte, c'est pourquoi le bien que j'aime, je ne le fais pas, et le mal que je hais, je le fais. Et ben ça c'est le mystère de notre nature déchue. Dieu nous a créés pour être comme des êtres bons, puisqu'on était à son image. Et hélas, notre nature est complètement déviée. Et notamment, la déviation principale de notre nature déchue, c'est le désir. On désire toujours ce que l'on n'a pas. On désire ce qu'est l'autre. On veut le bien de l'autre. C'est pas pour rien que l'un des commandements dans l'Ancien Testament déjà, l'un des commandements c'est tu ne désiras pas la femme de ton frère, c'est ça. Et la concupiscence, le désir, c'est l'expression de notre égoïsme. Alors que l'homme étant à l'image de Dieu, Dieu par essence est celui qui se donne. Et nous, par cette concupiscence qui est notre péché, le fondement de notre péché, nous voulons ne pas donner, mais nous voulons au contraire accaparer. C'est pas simplement ne pas désirer le frère, la femme de son mari, de son prochain. C'est pas simplement une question sexuelle ou une question d'adultère, si vous voulez. C'est pas une question morale. C'est le fait surtout de vouloir, de jalouser, de s'ériger en juge, en centre du monde, et de vouloir capter pour soi-même. Et ce péché-là, il se décline sous toutes ses formes. Tous nos péchés, d'une certaine manière, se rapportent à cela. Et effectivement, notre nature est tellement viciée, je ne vais pas dire vicieuse, mais elle est tellement viciée par ce péché. Notre nature est tellement déchue que maintenant, naturellement, avec la nature d'aujourd'hui, nous sommes enclines à faire justement le contraire de ce que nous voudrions. Nous avons, par notre âme, nous avons toujours l'aspiration au bien et au beau. Nous avons toujours une certaine propension du fond de notre âme à la communion avec les autres. C'est pas pour rien justement que c'est pas pour rien que l'homme devient un être social où il vit il essaie de vivre en communauté avec les autres. L'histoire montre que souvent il n'y arrive pas, mais l'homme réellement n'est pas un être social qui cherche à vivre en communion avec les autres. L'homme est un homme de communion, ce qui est différent. C'est pas qu'il a une vie sociale qui lui fait plier les pouces pour permettre à l'autre d'étaler les siens. Au contraire, mais c'est un homme qui cherche, l'homme cherche naturellement, devrait chercher naturellement à donner aux autres, à faire le bonheur de l'autre plutôt que de chercher son bonheur personnel, individuel et égoïste. Et dans ce cadre-là, effectivement, dans notre âme, il y a toujours un bien que l'on recherche, que l'on veut, mais malheureusement, notre nature est tellement pervertie qu'en fait on fait le contraire, souvent on fait le contraire. Et d'où l'expression de Saint Paul, le mal que je hais, je le fais, et le bien que je veux, je ne le fais pas. Notre nature est inversée, on est cul par-dessus tête, si vous voulez. Les valeurs sont comp- par le péché sont complètement transformés. Et c'est pour cela qu'on peut dire que même le plus grand saint pêche toujours. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'il fait des péchés, mais ça veut dire que même le plus grand saint a conscience que sa nature est effectivement fondamentalement, profondément pervertie. Et en ce sens-là, il peut se sentir pécheur. Peut-être qu'il ne fait moralement aucune faute, il est peut-être 24 heures sur 24 en présence de Dieu, etc. N'empêche qu'il se sent pécheur parce que sa nature est pécheresse. Et dans notre conversion, il est important de savoir que le but de notre vie chrétienne n'est précisément pas d'améliorer notre condition morale, parce que toujours, nous aurons la propension de faire ce que nous haïssons et de ne pas réussir à faire ce que nous voudrions faire. Et le jugement de Dieu n'est pas sur notre amélioration morale. Ça fait partie de nos caractères. Toi, t'es menteur, toi, t'es gourmand, toi, t'es voleur, toi, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est votre nature. Vous avez reçu ces gènes-là de la part de vos parents, qui les ont reçus de leurs quatre parents, etc. et toute la génétique qui est derrière. Ça, les traits de notre caractère, on ne les change pas. On peut lutter contre. Si mon père était poivreau, je suis peut-être aujourd'hui imbibé d'alcool et moi-même ivre tous les soirs, mais j'ai la liberté, tout en ne pouvant pas me guérir de mon alcoolisme, je peux accepter ou refuser cet alcoolisme. Je peux être ivre tous les soirs, mais du matin au soir, dire non, je ne veux pas boire, aujourd'hui je ne boirai pas, j'aime Dieu, donc je ne boirai pas, et puis finalement... La nature étant plus forte que ma volonté étant inhibée par l'alcool, finalement, je succombe. Mais jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, je me battrai contre ça. Je n'y arriverai pas, ça ne sera pas efficace, mais je me battrai contre, c'est-à-dire que ma liberté, effectivement, ne me permet pas de faire ce que je voudrais faire, mais je peux m'opposer à ce que je ne veux pas. Je ne veux pas être poivreau, je m'oppose à ça. Et le jugement de Dieu, si je puis dire, n'est pas sur la qualité morale à laquelle nous serions arrivés, mais sur l'humilité avec laquelle nous percevons notre propre déchéance et la foi avec laquelle nous nous remettons en Dieu pour notre salut. Je sais que je suis ivre tous les soirs. C'est pas complètement vrai quand même. Je sais que je suis ivre tous les soirs, mais du matin aux 4 heures, on m'avait dit je me bats contre mon alcool, je ne veux pas tomber. Finalement, je tombe quand même. Je suis complètement hors de moi à 7 heures le soir. Mais ça, c'est ma nature. J'en demande pardon à Dieu. Mais je crois que son amour est encore plus grand que ma déchéance, et c'est cette foi-là, que je l'exprime avec ces mots-là, c'est ça qui permet à Dieu de me sauver, et non pas la réussite de quelqu'un qui aurait vraiment de la volonté, et puis qui d'un coup de volonté arrêterait tout d'un coup de boire et tout ça. Et Guérunda, dans ses homélies, dit quelquefois qu'il est donné à certains de rester pécheurs toute leur vie, et que... ceci peut être une grâce de Dieu. Entendons-nous bien, Dieu ne cherche pas à nous faire pécher, bien sûr. Mais le tout dans notre vie, d'après ce qu'il dit, si j'ai bien compris, c'est d'utiliser même notre déchéance, d'utiliser notre péché, pour qu'il devienne au contraire quelque chose de plus grand. Par exemple, je reprends l'exemple de l'alcoolisme, vous pouvez mettre ça sur l'adultère, vous pouvez mettre ça sur le meurtre, vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle autre faute morale. L'important est que j'accepte de me reconnaître ce que je suis, c'est-à-dire alcoolique. J'accepte de me j'ai le courage de me voir tel que je suis et de ne pas me masquer en disant oh « ben ça c'est pas de ma faute, c'est de la faute à papa, il a des gamins à voir, moi j'hérite de lui, etc. » de se trouver des bonnes raisons comme ça. Non, je participe moi aussi à ma déchéance, donc j'assume ça. Mais j'en fais un acte de foi encore plus grand et je me confie à Dieu, sachant que sa miséricorde est infinie. Et moi, je n'ai aucune raison, aucun mérite pour être sauvé, mais lui, il n'a qu'à faire de moi ce qu'il veut, qu'il me sauve ou qu'il me damne, ce que je veux faire, c'est sa volonté. Et à ce moment-là, on est sauvé, de fait. Vous comprenez? Si ce n'est pas un calcul, évidemment. C'est des exemples que je vous prends, mais voilà pourquoi on a... effectivement, toute notre vie, on ne fait pas, comme dit saint Paul, le mal, le bien qu'on fait, on ne le fait pas, le mal qu'on refuse, on le fait. Mais ça, c'est à la limite presque pas important. Ça fait partie de notre condition actuelle, mais la foi que l'on a doit dépasser ceci, et c'est ça qui va nous unir à Dieu. Vous comprenez que c'est complètement différent qu'une autre attitude de dire « Oh ben, je suis alcoolique, mais ben, je m'en fous. » À ce moment-là, bon ben, il n'y a pas de repentir. Dans le premier cas, je sais que je suis alcoolique, je veux me corriger, je n'y arrive pas, mais je me fie à Dieu, je me confie à Dieu et qu'il fasse suivant sa volonté. Et ça, c'est un repentir. Ce qui n'empêche pas que je vais mourir alcoolique. Donc, ça va être les hommes, eux, avec le jugement des hommes, je vais être condamnable. Et il y a des religions, et il y a même des aspects de la vie chrétienne, certains aspects, la manière dont on présente la vie chrétienne, qui consiste justement à croire que la religion nous aiderait à être meilleurs. La foi chrétienne orthodoxe, en tout cas, n'est pas le problème de nous rendre meilleurs. Ça, devenir meilleur, c'est encore, à la limite, c'est encore une forme d'égoïsme. Je veux donner le meilleur de moi-même à Dieu. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Donc, je dois lutter contre mes passions. Mais je ne dois pas, le but n'est pas de réussir à vaincre mes passions. Et il y a une manière de présenter le christianisme qui est une manière morale, mais qui est déviée, qui ne nous fait pas prendre confiance, qui ne nous fait pas prendre confiance en Dieu, donc qui ne nous fait pas le repentir, mais qui amène une certaine auto-édification, si vous voulez, une certaine discipline, qui nous rendrait meilleurs. Et effectivement, on entend quelquefois cette critique, ou quelquefois de nous-mêmes vient cette critique, mais si on était vraiment croyant, si on serait meilleur que l'on est. Ou alors, comment ça se fait qu'étant croyant, ils sont capables de ceci, de cela? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le mal que je fais, c'est le mal dont j'hérite aussi, qui n'est pas ma nature réelle. Et ma vie consiste à avoir retrouvé ma vraie nature, donc par la confiance en Dieu, par la supplication, par l'humilité, par la prière, c'est-à-dire par toutes les vertus, si vous voulez. Et vous voyez, même, je pensais parler avec quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, même dans la présentation de la vie monastique. On présente souvent la vie monastique, en Occident tout du moins, comme la lutte contre les passions. On a des schémas, des codes, une doctrine qui montre que si on lutte contre cette passion-là, on va arriver à vaincre telle autre, et puis tout ça, et que de degré en degré, on va pouvoir s'élever vers la perfection. C'est tout à fait juste. Évidemment, je ne vais pas condamner cela. Mais ça peut être interprété comme d'une manière égoïste aussi, surtout dans notre mentalité moderne, comme ce que j'appelais tout à l'heure de l'auto-édification, si vous voulez. C'est une méthode pour devenir meilleur. Vous comprenez, moi, je vais mourir quand même pas trop mal. Pas comme vous. J'exagère un petit peu en disant ça, mais je caricature seulement. Et alors que la perspective orthodoxe, même si on la présente aussi quelquefois comme ça, parce que c'est pas faux non plus, mais la perspective orthodoxe, c'est pas tellement de réussir à vaincre ses passions plutôt que de s'attacher à faire la volonté de Dieu. d'aimer Dieu au point de s'en faire les serviteurs. Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux. Et on a cette... Il y a 10 questions. Alors, vous voyez que si je réponds à une en 20 minutes... mais c'est un sujet important. Si dans la vie monastique, l'important, pareil, quand on se destine à la vie monastique, par exemple, suivant la manière dont on se prépare, dans la manière dont on désire entrer dans un monastère, il faut bien faire attention à la manière intérieure de nos dispositions. Si j'estime doctrinalement que c'est la meilleure vie, que c'est là où il y a le plus de sainteté, donc comme je veux devenir saint, c'est là que je vais devenir saint, à ce moment-là, on va se planter. Parce que tous les coups, on va encore une fois de plus faire le mal qu'on n'aime pas, et on va pas faire le bien que l'on aime. Et on va se décourager, parce qu'on va s'apercevoir qu'on n'est pas meilleur que les autres, et que... Si on y va en disant, parce que ce sera un témoignage pour les hommes ont besoin de personnes illuminées, au sens du terme. Là aussi, c'est parce qu'on veut paraître, on veut faire quelque chose. Donc on va encore se planter, parce que c'est encore une forme d'orgueil. On peut commencer comme ça, et puis après, dans le cours de courant de la vie monastique, s'apercevoir que la vie est d'autre monde et se convertir aussi. Donc ça ne condamne pas directement ces attitudes-là. Cependant, ce n'est pas les attitudes justes. L'attitude juste, quand on veut rentrer dans un monastère, dire « J'épouse ce monastère parce que je veux donner ma vie à Dieu et il fait de ma vie ce qu'il veut. » Si bien que dans le monastère, si on m'envoie faire la cuisine, je fais la cuisine. Si on m'envoie missionnaire en Alaska, je serai missionnaire en Alaska. Si on me met dans une cellule à prier toute la journée et que je vois personne, et bien je serai dans une cellule toute la journée et je vois personne. Je donne ma vie à Dieu. Vous comprenez là? Mais il y a souvent, évidemment, une évolution dans tout.